Léa Salamé, votre invitée ce matin, est présidente de Debout la France, députée de l'Essonne, candidat à l'élection présidentielle.
Bonjour Nicolas Dupont-Aignan.
Bonjour Léa Salamé.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors ça y est, Éric Zemmour est candidat officiellement à l'élection présidentielle. Est-ce que ça change vos plans? Vous pourriez le rallier?
Non, je suis candidat gaulliste. Je défends un projet, ma personnalité. Bon courage, plus il y a de choix, plus les Français iront peut-être voter. Et je pense qu'Éric Zemmour a suffisamment de temps d'antenne pour que je passe pas le mien à commenter.
Mais je vous ai vu tiquer sur l'édito de Thomas Legrand, les références à De Gaulle,
tout ça.
J'ai pas
envie. Je vais vous dire, avant-hier j'étais dans la Creuse, quasiment chaque semaine je fais 4 déplacements. Je vois mes concitoyens qui ne peuvent pas se chauffer, qui sont obligés de mettre 4 pleins d'essence par mois, c'est-à-dire 400 euros par mois quand on gagne le SMIC pour aller travailler parce qu'il n'y a plus de boulot à côté de chez eux. Je vois l'hôpital où il y a 20% des praticiens hospitaliers qui sont absents et qui est en délabrement complet. Donc il y a une élection présidentielle dans 4 mois et demi, c'est demain matin. J'ai envie de proposer des solutions, j'ai mes solutions. L'élection présidentielle, les Français vont choisir pour 5 ans.
Mais justement,
voilà,
pardon.
Tout le reste ne m'intéresse pas.
Oui, non mais d'accord.
M'intéresse plus.
Entre Éric Zemmour, Marine Le Pen ou le ou la candidate LR qui va sortir samedi prochain, quel est votre espace?
Mais mon espace, c'est moi qui vais le créer.
Quel est votre
espace? Que les Français regardent mes propositions. J'ai sorti un livre, je suis le seul à avoir dit comment on allait financer et comment j'allais financer ma hausse du pouvoir d'achat un 13e mois pour tous les Français jusqu'à 3 fois le SMIC. 20 milliards d'euros en réduction des charges salariales sans peser sur la compétitivité. Je suis le seul à dire comment je vais supprimer la tarification à l'acte à l'hôpital qui a détruit l'hôpital public et qui a démotivé les médecins et les infirmières. Je suis le seul à dire comment je vais réaménager le territoire, relocaliser 1 million d'emplois en province, là où il y a des déserts. Voilà ce qui m'intéresse. J'ai été maire 22 ans. J'ai réglé les problèmes, à ma façon. J'ai été réélu largement. Je pense que la vie politique est en train de crever des petites phrases, des petites polémiques, que ça n'intéresse personne. Mmh. Et que le vrai danger, dans 4 mois et demi, c'est quoi? C'est une abstention massive. C'est un président qui sera élu sans aucune légitimité, alors que le pays affronte des tempêtes. Donc voilà, alors, de grâce, les uns les autres, c'est leur problème.
Nicolas Dupont-Aignan,
j'ai peu de temps d'antenne, permettez que je développe ce que je propose.
Vous parlez de l'hôpital qui ne va pas bien. L'hôpital ne va pas bien parce que les personnels sont épuisés, parce qu'on en est à la 5e vague de l'épidémie du Covid. Olivier Véran a dit que la situation était en train de s'aggraver. Il y a eu 47 000 contaminations ces dernières 24 heures. C'est un record pour la 5e vague. Il répète, Olivier Véran, que face à cette situation, seule la vaccination et le pass sanitaire peuvent protéger notre pays et notre hôpital. Que lui répondez-vous?
Je lui réponds qu'il a supprimé 5700 lits d'hôpitaux en 2020, en pleine crise sanitaire. Je lui réponds qu'il maintient des suppressions de lits dans quantité de départements français, que c'est une folie. Et je maintiens ce que j'ai dit
c'est
depuis le départ.
C'est pas qu'il maintient... Pardon.
Les suppressions de lits.
Les suppressions de lits, c'est pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de parce que les infirmiers
sont
épuisés.
Vous parlez de deux choses différentes. Ouais. Il y a les lits fermés parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'infirmiers parce qu'ils partent, parce que la tarification à l'acte a détruit l'hôpital, avec la rentabilité absurde. Et deuxièmement, parce qu'ils ferment des lits. C'est un scandale ahurissant. Premier point. Deuxième point, j'ai toujours dit depuis le départ que face au Covid, il fallait ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Je me réjouis d'ailleurs d'avoir vu dans Le Parisien, il n'y a pas longtemps, un médecin qui disait « on a eu tort de mettre tous les œufs dans le panier de la vaccination ». Je l'ai dit, le conseil scientifique, j'ai repris ce matin, le conseil scientifique écrivait le 20 août 2021, que la vaccination n'empêcherait pas la transmission, que des vaccinés pouvaient avoir une charge virale équivalente à des non-vaccinés, et que la troisième dose ne serait pas suffisante si on abandonnait des gestes barrières. Et j'ai proposé depuis le début, purificateurs d'air dans les écoles.
Mais c'est
pas un euro de mis dans les purificateurs d'air dans les écoles.
Il y a 9 fois plus d'entrées en soins critiques parmi les personnes non vaccinées que parmi les personnes qui sont vaccinées. Il y a 9 fois plus de décès chez les personnes non vaccinées. Et vous continuez à dire, il ne faut pas défendre la vaccination?
Non, je continue à dire que la vaccination doit être réservée aux personnes fragiles et en comorbidité, que ça peut être un élément de la stratégie, mais que la vaccination totale comme mythe est un échec. La preuve, c'est qu'il y a une 5e vague, et la preuve, c'est que ça ne marche pas. Donc, j'essaye, face à une crise multiple, d'avoir une réponse multiple, sensée, en partant des faits, et je dis qu'il faut...
En partant des faits, les scientifiques tous sont d'accord. Regardez, en Allemagne, le nouveau chancelier, il veut passer à la vaccination obligatoire. En Autriche, c'est déjà fait.
Plus ça échoue, plus il continue.
Vous êtes le seul dirigeant politique aujourd'hui.
Je suis pas le seul.
Dans les grands leaders nationaux à défendre votre point de vue.
Je défendrai mon point de vue parce que j'estime que la vaccination d'un produit sous autorisation conditionnelle, qui n'a pas le recul nécessaire, peut être utile à bénéfice-risque avec le médecin pour les personnes fragiles et à risque, et est une folie pour les jeunes. Je le maintiens, je persiste, je signe. Et je demande aux Français d'arrêter de céder à la manipulation, à la peur, aux intérêts financiers qui sont en train d'échouer devant nous.
Quelle manipulation, Nicolas Dupont-Aignan,
si tout allait bien, la manipulation des médias permanente, si tout allait bien, il n'y aurait pas de cinquième vague. Si tout allait bien, on ne nous demanderait pas une troisième dose et maintenant une quatrième. Donc, je demande, il n'y aurait pas des variants qui contournent les vaccins. Je demande qu'on protège les gens. Je ne suis pas anti-vaccin du tout. Je demande qu'on ait une palette.
Et
je vous supplie de croire...
Vous n'avez toujours reçu aucune dose.
Mais ça ne vous regarde pas, c'est le secret
vous
médical.
Le week-end dernier, vous avez dit non, je ne suis pas vacciné.
Oui, alors... en tout cas, j'en ai assez de la manipulation par la peur de ce pays. J'en ai assez de la manière dont Emmanuel Macron veut sauter l'élection présidentielle en terrorisant un pays, alors qu'il y a beaucoup de choses à régler. Encore une fois, je propose qu'on augmente les salaires d'un 13e mois jusqu'à 3 fois le SMIC pour permettre aux Français de vivre. Est-ce qu'un jour, la petite classe parisienne, qui ne sait pas ce qu'est la vraie vie, puisse aller vivre en Creuse, en Alsace, à Brest, voir ce que vivent nos concitoyens, les retraités par exemple. Je propose l'indexation des pensions
Nicolas
de retraite sur l'inflation.
Dupont-Aignan, c'est qui la petite classe parisienne ? Vous habitez où ? Vous habitez à Brest ou vous habitez à Paris ?
Écoutez madame, j'habite où j'habite, mais en revanche, je vois ce qui se passe dans mon pays. Et quand je vois des retraités dont on réduit le pouvoir d'achat chaque année en n'indexant pas leur pension de retraite, quand on a une inflation qui va atteindre 5% et qu'on a une retraite de 900 euros qui perd 3 à 4% par an, est-ce qu'il ne serait pas temps d'agir ? Est-ce qu'il ne serait pas temps d'agir sur toutes ces questions concrètes ? Et le rôle de la campagne présidentielle, c'est bien évidemment de présenter aux Français un choix.
Alors justement, sur votre programme,
et
sur l'économie, le pouvoir d'achat n'a pas baissé malgré la crise,
c'est formidable.
Dit l'INSEE.
Mais c'est extravagant,
c'est aussi de la
madame Salamé.
Non mais c'est aussi de la manipulation.
Mais c'est la manipulation que tous les médias répètent. Mais tous les Français savent que leur pouvoir d'achat a baissé. Mais est-ce que vous croyez un instant que le pouvoir d'achat des Français a augmenté sous Emmanuel Macron ? Est-ce que vous le croyez ? Est-ce que vous pouvez imaginer ce que vivent nos retraités qui ont eu ?
Je crois en ce que me dit l'INSEE.
Ah bah oui,
encore
vous avez bien tort.
Mais peut-être que je suis manipulée par l'INSEE.
Oui, complètement.
Parce que si vous alliez les chiffres du chômage à leur plus bas depuis 15 ans, c'est une manipulation.
Oui, parce que tout va très bien. Écoutez, les salaires n'ont jamais été aussi bas. Les gens ne peuvent plus manger, se chauffer. Circuler. Voilà la réalité. Il y a 12 millions de Français qui ne vont pas se chauffer cet hiver. Donc, moi, j'aimerais peut-être qu'à un moment, on propose des solutions. Je ne dis pas qu'on peut régler tout d'un coup de baguette magique. Je propose 100 milliards d'économies dans mon ouvrage. Précise, les fausses cartes vitales, l'Union européenne, l'immigration, la grande fraude internationale à la TVA. Je propose des économies pour redéployer et permettre de reconstruire l'hôpital, d'augmenter le pouvoir d'achat et de relocaliser des entreprises.
L'Union européenne, on en sort ?
Non, mais on renégocie sous Jacques Chirac et Lionel Jospin. On donnait 1 milliard net par an à l'Union européenne. Aujourd'hui, on en donne 10. J'estime qu'on n'a pas à subventionner M. Erdogan ou l'industrie polonaise. Et je préférerais que cet argent, on le mette sur l'hôpital public.
Dans votre programme que j'ai lu, vous prenez, je vous cite, une vraie écologie. C'est un sujet trop important, dites-vous, pour le laisser aux coupeurs de sapins de Noël, aux fumeurs de cannabis et aux financeurs de la mosquée de Strasbourg. J'imagine que vous parlez du parti Europe Écologie et Vert.
Tout à fait. Et je vais vous dire une chose. Je pense que, par exemple, je propose dans mon bouquin de redéployer les 3 milliards d'aides aux éoliennes qui sont inefficaces sur le plan écologique, vers l'isolation thermique. Le gouvernement a fait des efforts sur ma prime rénov', je le salue, mais on doit doubler le rythme si on veut, par exemple, mettre fin aux 5 millions de passoires thermiques. Et ça permettrait à la fois de lutter contre l'effet de serre et en même temps d'alléger le porte-monnaie. Moi, je n'ai qu'un souci pendant cette campagne. Permettre aux Français de vivre avec dignité. C'est un sujet majeur. Et j'ai encore une fois la prétention d'apporter des solutions concrètes. Si chaque Français paye un peu moins son énergie, eh bien il pourra aller au cinéma. Voilà, c'est tout simple. Alors évidemment, ça n'intéresse pas grand monde.
Ben si, vous voyez, vous l'avez dit.
Ben, je vous en remercie.
Laissez le temps, vous en avez tous vos parrainages. Vous avez reconnu que c'était plus dur cette fois-ci.
Beaucoup plus dur. Je fais appel aux maires. Je ne les aurai peut-être pas, je les aurai peut-être. Ça va être très juste. Et je dis aux maires, ben, c'est la démocratie. Si d'ailleurs, y a un candidat qui porte des projets qui ne peut pas être candidat parce qu'il n'a pas les parrainages, je pense que ça posera un réel problème. Donc je demande aux maires de parrainer pour la démocratie. Ça ne veut pas dire soutenir.
Merci Nicolas Dupont-Aignan.
Merci à vous.
Belle journée à vous.
Merci à vous aussi. France Inter.